contre le réchauffement climatique et du dernier ouvrage auquel elle a contribué, Notre nouvelle nature, guide de terrain de l'Anthropocène. Merci d'être à l'écoute de France Culture. Il est 18h. Le journal est signé Stanislas Vazak. Bonsoir Stanislas.
Bonsoir Quentin, bonsoir à tous. La mort au collège à Nogent en Haute-Marne. Une surveillante a été tuée à coups de couteau par un élève qui a été arrêté. L'adolescent n'était pas connu des services de police. Nous ferons le point sur l'enquête avec Jeanne Stémar et nous verrons avec Antoine Marette les réactions politiques particulièrement virulentes à l'extrême droite. En Autriche, une tuerie dans un établissement scolaire a fait 9 morts à Graz. L'agresseur serait un ancien élève de l'établissement qui s'est suicidé après le massacre. Les explications à suivre d'Isorias. 5000 militaires à Los Angeles. Donald Trump a décidé de militariser la répression contre les adversaires de sa politique migratoire. Face à lui, le gouverneur démocrate de la Californie, Gavin Newsom, nouvelle figure de l'opposition au président américain. Le dossier de ce journal nous emmènera à Rochefort, en Charente-Maritime, pour la réouverture de la maison de l'écrivain voyageur Pierre Loti. Un déferlement de violence insensé pour Emmanuel Macron. Une assistante d'éducation est morte ce matin sur son lieu de travail, le collège Françoise Dolto de Nogent en Haute-Marne. Mélanie, 31 ans, a été attaquée au couteau par un élève de l'établissement. La surveillante a succombé à ses blessures devant son collège. L'élève, âgé de 14 ans, a été arrêté. L'agression a eu lieu pendant une opération de contrôle des sacs de classe en présence de gendarmes. Jeanne Stémar, bonsoir.
Bonsoir Stanislas, bonsoir à toutes et à tous.
Elisabeth Borne, la ministre de l'Éducation, s'est rendue sur place au collège Françoise Dolto de Nogent et elle a donné des précisions concernant le profil de l'élève mis en cause, Jeanne.
Selon la description qu'en fait la ministre de l'Éducation nationale, c'est un élève qui ne présentait pas de difficultés particulières. Il s'agit d'un collégien âgé de 14 ans, scolarisé en 3e au collège Françoise Dolto à Nogent. Ses deux parents travaillent, a précisé Elisabeth Borne. Malgré deux exclusions temporaires en début d'année pour avoir perturbé la classe, aucun autre incident n'avait été signalé. Jusqu'à maintenant, le collégien n'avait pas d'antécédents judiciaires. Le garçon était même ambassadeur harcèlement, élève qui, dans un collège ou un lycée, sert de référent dans la lutte contre le harcèlement scolaire. Ses professeurs, eux, sont sidérés par ce qu'il s'est passé ce matin.
Elisabeth Borne a aussi rappelé les résultats des fouilles aléatoires menées depuis fin mars dans les établissements scolaires, résultat d'une circulaire signée conjointement en mars avec son collègue de l'Intérieur, Bruno Retailleau, pour que les forces de l'ordre puisse contrôler l'intérieur des sacs à dos des élèves, Jeanne.
Mesure décidée après la multiplication des agressions à l'arme blanche dans ou à proximité des établissements scolaires. Depuis la mise en place de ces contrôles aléatoires, 6000 fouilles ont été réalisées en l'espace de 2 mois, 186 couteaux saisis. Il y a eu 32 gardes à vue et 600 conseils de discipline. Mais Elisabeth Borne veut aller au-delà de ces contrôles aléatoires. La ministre de l'Éducation veut aussi agir sur la santé mentale en demandant aux assises de l'harcèlement un meilleur suivi des jeunes.
Jeanne Stémar, merci. L'Assemblée nationale a observé une minute de silence à la mémoire de Mélanie à l'ouverture de la séance des questions au gouvernement cet après-midi. Mais après l'hommage, l'extrême droite n'a pas tardé à mettre en cause le gouvernement pour son incapacité supposée à empêcher de tels drames. Antoine Marette, bonsoir.
Bonsoir Stanislas.
C'est Marine Le Pen qui a ouvert les hostilités contre François Bayrou.
Marine Le Pen qui évoque un drame et non un fait divers, un drame lié selon elle à la passivité des différents gouvernements qui se sont succédés.
C'est parce qu'il n'y a jamais eu de réponse politique que l'ultra-violence s'est banalisée, en particulier chez les mineurs. C'est parce qu'il n'y a jamais eu de réponse politique que des enfants deviennent orphelins et des parents sont obligés d'enterrer des enfants victimes de la barbarie.
La chef de file des députés RN s'adresse au Premier ministre François Bayrou. Elle lui demande une réponse politique à ce drame.
Nous ne pouvons pas rester simplement dans l'observation des accidents qui se multiplient. Et donc le gouvernement a lui aussi l'intention d'aller dans le sens de l'expérimentation de portiques à l'entrée des établissements scolaires.
La députée Horizon Naïma Moutchou a remis un rapport fin mai à Matignon sur le problème des armes blanches chez les jeunes. Dans sa prise de parole, elle évoque l'ampleur du fléau.
Ce matin, c'est Cécile, assistante d'éducation, qui a perdu la vie. Hier, c'était Elias, Lorraine, Thomas, Sekou, Inès, Enzo, Matisse et tant d'autres encore. Tous tués par des mineurs à l'arme blanche. Nous voyons l'autorité reculer partout et la violence gagner partout.
François Bayrou souhaite reprendre les 50 propositions faites par Naïma Moutchou. Elle recommande le déploiement obligatoire de la vidéosurveillance à l'entrée des établissements scolaires, la pause numérique pour les élèves ou tout simplement l'interdiction des téléphones portables. Et elle préconise d'interdire la vente de certains couteaux. Le Premier ministre va lui confier une mission pour vérifier l'application effective de ces propositions.
Antoine Marette, merci. Autre réaction notable ce soir après le drame de Nogent, celle de Jean-Luc Mélenchon. Le chef insoumis appelle à veiller à la santé mentale des jeunes, en particulier des jeunes garçons qui s'enfoncent dans la violence, selon ses termes. Une autre tragédie en milieu scolaire ce soir dans l'actualité, cette fois en Autriche, à Graz, la deuxième ville du pays. Un homme de 21 ans a ouvert le feu dans un collège-lycée. Le bilan est très lourd. Au moins 9 morts. L'auteur des tirs serait un ancien élève. Il s'est suicidé après la tuerie. On fait le point avec notre correspondante en Autriche, Isorias.
L'Autriche est sous le choc après ce qui est la pire fusillade dans une école de son histoire, celle survenue ce matin dans un établissement scolaire de Graz. Les autorités ont confirmé que 9 personnes, 6 femmes et 3 hommes, étaient décédées, sans préciser combien parmi ces victimes étaient des élèves. 12 autres personnes sont également blessées, dont certaines grièvement. L'auteur présumé, un Autrichien de 21 ans, ancien élève de l'établissement, est lui aussi décédé. Il s'est suicidé dans les toilettes. Il n'était pas connu des services de police, mais avait, selon les autorités, un permis de port d'armes. Son mobile reste à ce stade inconnu et l'enquête se poursuit. Arrivé à Graz cet après-midi, le chancelier autrichien Christian Stocker, le visage grave, a appelé à l'unité du pays.
C'est une tragédie nationale qui nous bouleverse tous profondément. Cet acte nous touche en tant qu'êtres humains, en tant que parents et en tant que société. C'est précisément dans ces moments-là que nous devons être solidaires, comme une communauté qui se soutient, comme une société qui compatit. Même si les conflits font partie de la vie, leur résolution par la violence ne doit jamais faire partie de notre vie.
Et le chancelier a décrété 3 jours de deuil national.
Isorias, depuis Vienne. Los Angeles serait en train de brûler si je n'avais pas envoyé l'armée. C'est Donald Trump qui l'écrit sur son réseau social. Alors que la mégapole californienne entre dans sa 5e journée de tension, avec des affrontements entre forces de l'ordre et manifestants hostiles à la politique anti-immigration de la Maison-Blanche. Le président américain a déjà envoyé près de 5000 militaires sur place, des membres de la garde nationale, mais aussi des Marines. Et il flirte avec la loi américaine sur l'insurrection, pourtant réservée aux situations extrêmes, Sébastien Paour.
Trump n'a jamais été aussi proche d'invoquer ce texte de 1807 qui autorise le déploiement de troupes pour réprimer des troubles intérieurs et qui fait partie des pouvoirs d'urgence les plus extrêmes dont dispose un président en exercice. Quand il dit que les personnes qui causent des problèmes à Los Angeles sont des agitateurs professionnels et des insurgés, il montre clairement qu'il est à deux doigts d'invoquer cet Insurrection Act parce que pour l'instant, sans cette loi, les quelques 4000 membres de la garde nationale et les plus de 700 Marines mobilisés sur place sont cantonnés à des actions limitées. Leur mission reste légalement la protection des agents et des bâtiments fédéraux. Point final. Le gouverneur de Californie a porté plainte contre l'envoi de la garde nationale sans son accord parce qu'il n'y a pas, dit-il, de situation de rébellion dans son état, en tout cas pas à ce stade. Comme l'écrit le New York Times dans son éditorial aujourd'hui, c'est le 6 janvier 2021 que l'Amérique s'est le plus approchée de la rébellion quand les partisans de Trump ont pris d'assaut le Capitole. Ils n'avaient pas envoyé l'armée à l'époque.
Sébastien Paour, correspondant de France Culture à Washington. Et face à Donald Trump, un homme s'impose effectivement aujourd'hui comme son principal opposant, Gavin Newsom, le gouverneur démocrate de la Californie. Après l'envoi de 700 Marines à Los Angeles, il n'avait pas hésité à dénoncer, je cite, « le fantasme fou d'un président dictatorial ». Le président américain qui en a fait sa bête noire au point d'évoquer la possibilité de l'arrêter. Une provocation de Trump qui renforce encore la nouvelle stature de Gavin Newsom, Nathanaël Charbonnier.
Depuis que la crise a débuté à Los Angeles, on le voit partout avec son look impeccable et son sourire hollywoodien. Il faut dire que Gavin Newsom est le gouverneur de l'État de Californie. C'est un démocrate, mais qui sait aussi séduire les républicains, notamment lorsqu'il s'en prend au campement de sans-abri nombreux en Californie. Mais pour l'heure, ce qui charme, c'est sa faculté à répondre au président américain, notamment lorsqu'il demande à Trump de grandir un peu et d'arrêter de faire n'importe quoi.
J'ai dit au président, finissons-en, arrêtez-moi, passez à autre chose. Si vous avez besoin d'un scalp, faites-le avec moi. Et arrêtez de vous en prendre à ces jeunes. Les gens ont peur de marcher dans la rue. Il y a des incidents, je n'y croyais pas, mais j'ai vu des vidéos. Ils font des contrôles d'identité des gens bien, qui travaillent dur, des gens honnêtes. Ce ne sont pas des criminels, ce ne sont pas des voyous.
Le gouverneur Gavin Newsom, qui trouve, grâce au président Trump, l'occasion de se faire connaître dans tous les États-Unis. Car après 6 ans à la tête de l'État de Californie, où il a mené une politique de gauche en défendant, par exemple, le droit à l'avortement, il était à la recherche, justement, du tremplin qui lui permettrait de rayonner au-delà de ses frontières.
C'est une voix singulière en Israël face à Benjamin Netanyahou. L'ancien Premier ministre Ehud Olmert fait partie de ceux qui critiquent ouvertement la guerre que mène son successeur à Gaza. Une guerre qui était légitime selon lui après les massacres perpétrés par le Hamas le 7 octobre 2023. Elle ne l'est plus depuis mars 2025 quand Netanyahou a ordonné la reprise des opérations militaires à Gaza. Ehud Olmert est à Paris aujourd'hui à l'invitation de la Fondation Jean Jaurès pour défendre une solution à deux États, Israël et l'État palestinien. À ses côtés, le Palestinien Nasser El-Kidoua, neveu de Yasser Arafat et ex-ministre des Affaires étrangères de l'autorité palestinienne. Les deux hommes proposent une vision commune pour l'avenir de leurs deux peuples. Claude Guibal les a rencontrés.
Tous les opposés, mais désormais c'est ensemble qu'ils avancent. Avec ce plan de paix qu'ils ont bâti il y a presque un an, une solution à deux États avec des échanges de territoires et Jérusalem sous administration internationale. Une vision commune, seule possibilité selon eux pour une paix qui aille au-delà d'un éventuel cessez-le-feu. Et lorsque Ehud Olmert s'adresse à Nasser El-Kidoua, c'est désormais en partenaire.
Regardez-le, c'est un politicien expérimenté. Et moi aussi j'ai un peu d'expérience. On n'est pas naïf. On connaît toutes les difficultés, on sait combien c'est complexe, on sait combien c'est impopulaire parmi certains cercles dans nos sociétés. Mais aussi, on sait qu'il n'y a pas d'autre alternative qu'une solution à deux États.
Ce qui les rassemble, c'est surtout la certitude que leurs deux peuples sont prisonniers de dirigeants qui n'ont aucun intérêt à sortir de la situation actuelle. Pour Nasser El-Kidoua, il faut offrir aux Palestiniens une alternative crédible, une autre proposition que le Hamas ou Mahmoud Abbas, auquel il s'oppose depuis longtemps, incarnation d'une autorité palestinienne défaillante.
Je sais que c'est quelqu'un qui ment beaucoup. Je ne pense pas que c'est un type que vous puissiez croire sur parole ou passer un accord avec lui sur quoi que ce soit qu'il propose.
Pour Ehud Olmert, même constat pour Benjamin Netanyahou et ses alliés ultranationalistes.
Les jours de Netanyahou sont comptés. Et d'ici peu, il y aura des élections anticipées. Et je fais tout pour aider à ce qu'il y ait une alternative responsable pour avancer dans la direction qui nous rassemble ici.
Une alternative qui, selon eux, ne peut passer que par un projet commun et admis par les deux États, sans quoi aucun cessez-le-feu ne mettra jamais fin à la guerre.
C'est un sujet majeur de la conférence de l'ONU sur la protection des océans, la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée. Il s'agit en tout cas d'une recommandation des scientifiques aux dirigeants politiques présents à Nice. Enjeu prioritaire également pour Emmanuel Macron. Cette pêche illégale représenterait environ 15% des captures dans le monde, soit quelque 26 millions de tonnes de poissons. Une pratique qui détruit les écosystèmes, alimente la corruption et menace les économies locales. On retrouve à Nice Catherine Pétillon, bonsoir.
Bonsoir.
Catherine, la France n'échappe pas au phénomène. En Guyane française, la pression de la pêche illicite étrangère a doublé en 12 ans selon l'Ifremer et l'ONG WWF.
Oui, les bateaux viennent des pays voisins, Brésil, Suriname, et Todd Rommel, qui est pêcheur en Guyane depuis plus de 40 ans, les croise de plus en plus souvent quand il part en mer.
On les voit tous les jours. Parce que nous, on a préservé notre zone. La Guyane est petite, la population est petite. Il y a peut-être 15, 20, 25 bateaux qui pêchent. On pêche pour la population locale. Donc ça va. La ressource, elle est bonne. Donc les voisins qui ont surpêché, qui ont des industries énormes, qui exportent. Maintenant, c'est les voisins qui viennent. Mais ce sont des pêcheurs illégaux. Ils ne respectent aucune condition. Ils vont pêcher même dans les réserves.
Sans compter les méthodes utilisées, de grands filets qui provoquent de nombreuses captures accidentelles de tortues et de dauphins. La population de poissons, elle, s'effondre et c'est autant de ressources en moins pour les pêcheurs légaux et locaux comme Todd. Lui met beaucoup plus de temps à pêcher la même quantité de poissons.
Avant, on pouvait faire 3-4 jours et remplir avec la cale pleine. Et aujourd'hui, il faut faire 10, 12, 13 jours. C'est ça la différence. Moi, je nourris ma famille avec mon travail. Chaque marin fait vivre 2-3 personnes à terre. Donc, imaginez, lorsque les populations de poissons diminuent, on a des centaines de familles qui ne peuvent pas vivre.
C'est aussi une question alimentaire. En Guyane, le poisson est la première protéine animale consommée. Mais pour les pêcheurs illégaux, il y a toujours plus de bénéfices que de risques à venir dans ces eaux exploiter des espèces comme la coupa rouge, vendue très cher en Asie. Alors pour Audrey Chevalier, qui est chargée de programme Océan pour l'ONG WWF en Guyane, il faut davantage de mesures dissuasives.
Ce serait de la présence en mer, parce qu'actuellement on ne voit pas les bateaux de contrôle sur les théâtres d'intervention, c'est-à-dire sur les frontières. Ce serait couler les bateaux illégaux, ce qui est quelque chose qui a été annoncé. On va voir si ça va être mis en place, à quelle échéance également. On veut voir une diminution du nombre de navires de pêche illégale. On veut les voir disparaître.
Outre cette destruction des navires illégaux repérés qu'il veut faciliter, le gouvernement français dit vouloir recourir davantage à la surveillance par drone.
Catherine Pétillon, en direct du sommet des océans de Nice avec Jérémy Thuil pour les moyens techniques. Le dossier de ce journal nous emmène dans un lieu extraordinaire, unique en France, avec une mosquée, une pagode japonaise ou encore une salle renaissance dans ses murs. La maison de Pierre Loti à Rochefort, en Charente-Maritime, est à nouveau accessible après un long chantier de restauration. Fermée au public en 2012, elle vient de rouvrir ses portes aujourd'hui, date symbolique, 102 ans, jour pour jour, après la mort de l'écrivain voyageur à qui l'on doit notamment Pêcheur d'Islande. Classé monument historique, labellisé Musée de France et Maison des Illustres, la maison de Pierre Loti figure dans la liste des premiers bénéficiaires du loto du patrimoine. Benoît Grossin, bonsoir.
Bonsoir Stanislas, bonsoir à toutes et à tous.
C'est un chantier colossal de près de 15 millions d'euros qui s'achève.
Tout a été restauré de fond en comble dans cette petite maison charentaise que l'écrivain et officier de marine a transformé à la fin du 19e siècle en décor de théâtre pour ses souvenirs, des milliers d'objets hétéroclites glanés aux quatre coins du monde.
C'est une maison monde.
Claude Stéphanie, le conservateur de la maison de Pierre Loti.
Pierre Loti y a transposé tout ce qu'il a pu voir dans ses voyages, en fait. C'est-à-dire qu'on y trouve une chambre arabe, un salon turc, une mosquée, une pagode japonaise et une salle chinoise. Ça, ce sont les grands décors exotiques, plus aussi des décors historicistes, une salle gothique et une salle renaissance. Dans deux maisons, en fait. Sa maison natale, qui est la maison familiale, et la maison voisine qu'il a achetée en 1895. Mais alors, ce n'est pas une maison d'architecte, c'est une maison de rêveur. C'est complètement compacté. Et donc là, on a une espèce de labyrinthe. Et on a ce sentiment que tout est un peu empilé de façon aléatoire.
Et cette maison-monde, construite au fil de l'eau sur plusieurs décennies, Benoît, n'a pas vraiment été façonnée dans les règles de l'art.
Pour bâtir son univers onirique, Pierre Loti est allé jusqu'à supprimer des planchers et murs porteurs, d'où un risque d'effondrement qui a contribué à la fermeture de sa maison au public en 2012. Et c'est après une mise à l'abri de l'ensemble des collections dans une maison totalement vide que l'architecte du patrimoine Elsa Rico est d'abord intervenue pour des travaux de consolidation pour corriger les importantes défaillances structurelles.
C'est une maison extrêmement fragile, déjà parce que Pierre Loti l'a lui-même amputée de certaines parties porteuses, mais aussi parce que la maison repose sur un sol marécageux, donc il a fallu dans un premier temps créer ses fondations. On a réalisé un scanner en 3 dimensions, un clone numérique de ce monument historique, qui nous a énormément aidé pour consolider les planchers qui n'étaient pas plus en capacité de porter du public. Et donc pour cela, nous avons ajouté des structures en métal les plus fines possibles pour ne pas impacter les décors. Et donc pour cette raison, il a fallu déposer des sols anciens, des parquets, des dallages en marbre pour pouvoir accéder aux entrailles des planchers. Et c'est après cette opération que nous avons pu reposer tous les sols historiques de la maison.
Et ce vaste chantier de restauration, Benoît, a réservé aussi de belles surprises.
À commencer par la redécouverte d'une salle mythique, la salle chinoise, dans ce qui était devenu une cour. Et cela à la faveur d'un incident, raconte l'architecte Elsa Rico.
La plus belle découverte que nous avons faite sur ce chantier, elle est arrivée dès l'hiver 2020 et à l'occasion d'une fuite. Et les dégâts des eaux ont fait apparaître derrière ces enduits tous les vestiges du plafond et des décors de cette salle chinoise qui avait été démantelée à la mort de Pierre Loti, que tout le monde pensait aux oubliettes. Et de fil en aiguille, on a commencé à mener une véritable enquête pour recomposer le puzzle, de retrouver les traces des colonnes, les couleurs d'origine, le rouge cinabre typiquement chinois qu'utilisait Pierre Loti dans sa maison. Et nous avons pu de cette manière, avec des outils numériques et des images de synthèse, reconstituer cette salle chinoise disparue.
Et après 5 mois de réinstallation minutieuse des décors et des collections, c'est la version de la maison datant de la mort en 1923 de Pierre Loti, grâce à des photographies d'époque en l'absence d'archives, cette fameuse maison-monde qui est au plus juste restituée aujourd'hui.
Merci Benoît Grossin. Notez que les visites obligatoirement avec un guide de la maison de Pierre Loti à Rochefort ne peuvent se faire qu'en petits groupes de 10 personnes maximum. Un mot du temps demain, soleil et chaleur au programme. Sur tout le pays, après des nuages bas de la Manche aux frontières du Nord. Le ciel devient orageux en fin de journée des Pyrénées à la Bretagne. Demain matin, il fera entre 8 et 19 degrés du Nord au Sud. Les températures maximales grimpent de 22 à 37 degrés. C'est la fin de ce journal. À la technique ce soir, il y avait Anthony Thomasson. 18h20 sur France Culture, vous retrouvez Quentin Laffey pour les questions du soir.
Merci beaucoup Stanislas Vazak, à vous et à la rédaction de France Culture pour ce journal et bienvenue à toutes et à tous dans Questions du soir, 1h30 de débats, d'analyses, de rencontres et de découvertes et à 19h dans l'actualité vue par les idées et la recherche alors que jusqu'au 13 juin se tient le sommet de l'ONU sur les océans à Nice, rencontre avec la grande anthropologue Anat Singh, professeure à l'Université de Californie à Santa Cruz et à l'Université d'Aarhus au Danemark. On parlera avec elle de l'actualité de la lutte contre le réchauffement climatique et du dernier ouvrage auquel elle a contribué, intitulé « Notre nouvelle nature, guide de terrain de l'Anthropocène ». C'est aux éditions du Seuil. Mais pour l'heure, place au débat du soir.
France Culture, question du soir. Quentin Laffey.
Et alors que les lycéens reçoivent cette semaine leurs résultats sur Parcoursup et qu'Elisabeth Borne vient de présenter son plan consacré à l'orientation, débat ce soir consacré au rôle des études supérieures, notamment à l'université. Alors assiste-t-on aujourd'hui à une remise en question des formations générales et quelle est la raison d'être même des universités françaises, former des citoyens ou former des travailleurs? Pour en discuter, pour en débattre même, deux invités ce soir. Monique Cantos-Perber, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes philosophe, directrice de recherche et Mérito CNRS, ancienne directrice de l'École Normale Supérieure, ancienne présidente de Paris Sciences et Lettres et l'autrice notamment de cet ouvrage intitulé « L'oligarchie de l'excellence, les meilleures études pour le plus grand nombre », c'est aux presses universitaires de France. Face à vous, Bruno Andréotti, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes physicien, professeur à l'Université Paris-Cité, chercheur au laboratoire de physique de l'École Normale Supérieure. Vous êtes par ailleurs vice-président de l'Association pour la Liberté Académique qui co-organise l'Agora Sciences Université Recherche des 16 et 17 juin afin de mener un travail de réinstitution de l'université, vous nous direz de quoi il s'agit, et du système de recherche. Merci à vous deux d'être présents ce soir dans Questions du soir et je précise que l'actualité aujourd'hui de l'éducation c'était évidemment le meurtre à Nogent en Haute-Marne d'une surveillante de 31 ans tuée au couteau par un élève aux abords du collège Françoise Dolto. Évidemment cette émission se fait en pensée avec ses proches et avec la communauté de l'éducation tout entière. Merci encore d'être présent ce soir dans Questions du soir.
Nous aurons besoin de nos universités, comme d'ailleurs du monde de l'entreprise, dans nos collèges et dans nos lycées, pour améliorer notre organisation et d'investir sur ce sujet. Mais nous devons aussi investir davantage là où les besoins de compétences actuelles et futures de notre pays sont les plus importants, en assumant que la logique aussi de l'offre prenne le pas sur la logique de la demande. L'orientation doit évoluer pour mieux répondre aux besoins des métiers de la nation et pour donner toutes leurs chances d'insertion aux étudiants. Et donc c'est un travail d'orientation, mais aussi un travail où nous devons assumer ensemble de penser en quelque sorte, la gestion des compétences dont la nation a besoin à 5 ans, à 10 ans, et de penser l'ouverture des filières, de l'investissement dans l'enseignement supérieur à la lumière de cette gestion des talents et des compétences dont nous avons besoin.
Il y a Mandic Kantos-Perber, dans ce discours du président de la République donné en 2022, la volonté de dire, d'expliquer que le rôle fondamental de l'université, c'est notamment de professionnaliser, de préparer les étudiants au monde professionnel. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée que la mission première, fondamentale de l'université est d'abord et avant tout celle-ci ?
Mais absolument. Nous formons des étudiants à l'université pour les préparer à la vie active, c'est-à-dire à jouer, à être véritablement autonomes dans leur rôle social, à avoir un métier, à pouvoir progresser, à être capables de façonner leur vie, avoir tous les éléments de formation qui leur permettent d'avoir la vie qu'ils souhaitent avoir. Donc, bien sûr, on prépare les étudiants à une vie professionnelle qui occupera probablement une quarantaine d'années, une cinquantaine d'années plus tard de leur vie. En revanche, comment les prépare-t-on à la vie professionnelle ? Est-ce que c'est en professionnalisant les études dès le début ? Est-ce que c'est en orientant dans une spécialité immédiatement l'étudiant ? Là, je ne crois pas, voyez-vous. Je pense que la formation doit se concevoir comme un processus. Première chose, donner des bases solides à l'étudiant, des bases en matière de raisonnement, des bases en matière d'expression. Malheureusement, les étudiants qui sortent de l'enseignement secondaire aujourd'hui sont plutôt en défaut sur ces questions-là. Donc d'abord, solidement les former intellectuellement, par les disciplines scientifiques, bien sûr, lorsqu'ils souhaitent s'orienter vers ce genre de métier, certainement par les disciplines qui ont trait à l'informatique ou au numérique, puisque c'est aujourd'hui omniprésent, quel que soit le métier, mais aussi travailler les qualités de raisonnement, les qualités de rigueur, les qualités de justesse, d'organisation, de capacité de conduite opérationnelle, toutes qualités générales qui doivent être toujours en ligne de mire de la formation universitaire, parallèlement à la formation à un métier, à des connaissances spécialisées, qui doit prendre de plus en plus de place, évidemment, au fur et à mesure qu'on se prépare aux débouchés professionnels. Donc, oui, préparer des personnes qui auront une vie professionnelle gratifiante et en évolution, mais pas les préparer en les enformant dans une spécialité dont on n'est même pas sûr qu'elle existera encore sur le marché du travail dans une trentaine d'années.
Bruno Andréotti, vous êtes sur la même ligne pour définir, justement, circonscrire ce qu'il revient à l'université française de faire pour ses étudiants ?
Alors, d'abord, l'université est une partie de l'école, je veux la lier à l'ensemble de l'école, comme commun de la société, comme pilier de la démocratie, comme endroit où se fabrique une culture commune, des savoirs communs. Pour faire société, il faut une école forte et, à mon sens, publique. Et l'université, dedans, elle a pour mission, en tout cas dans la vision qui naît de l'héritage qu'on appelle humboldtien, qui vient de la tradition allemande du 19e, de créer, transmettre, critiquer, conserver les savoirs et, du point de vue des étudiants, qui est une vocation d'émancipation, comme on vient de le dire, de construire sa vie, d'avoir une vie la plus ample et riche possible, et donc aussi de préparer à toutes les formes du travail, le travail aussi bien salarié que social, que le travail démocratique.
Je précise simplement, humboldtien, ça vient du linguiste prusse Humboldt, qui a justement participé à construire, à forger l'université de Berlin. Et dans sa pensée, il y a une idée fondamentale, il faut déconnecter les savoirs enseignés à l'université, la recherche menée à l'université, des attentes du marché du travail et de l'économie en général.
Alors, en tout cas, quand au 19e, il y a eu vraiment deux écoles de pensée. Nous, on est dans l'héritage napoléonien qui a fonctionné sur le lycée, qui est la grande structure napoléonienne, et des écoles professionnelles qui ont évidemment leur utilité. On forme des médecins, on forme des enseignants, c'est très bien. Et dans un moment de renouveau humaniste qui peut-être suit une période comme celle qu'on traverse en ce moment. Von Humboldt, ce sont deux frères, donc il y a pas forcément la fondation de l'idée moderne d'université a été créée avec cette idée du savant qui enseigne, qui produit les savoirs et les transmet, du savant en sa solitude. Et on peut voir les conséquences aujourd'hui d'un siècle et demi de tradition séparée, à la fois économiquement, l'économie allemande, bon, peut-être pas là depuis un an et demi, mais florissante, beaucoup plus que la nôtre. Et ces héritages au long cours, ils marquent encore nos institutions, ils marquent des traditions. Et d'une certaine manière, la France n'a pas encore connu d'université au sens humboldtien fort du terme, aujourd'hui.
Mais donc pour vous, Bruno Andréotti, en quelques mots, est-ce que vous trouvez que pour l'instant, ces universités sont trop tournées vers la formation professionnelle, vers ce qu'attend le marché du travail, ou bien la mission de l'université est tout autre, c'est d'abord de former des citoyens, comme vous le laissez entendre?
Donc, on ne peut pas dire qu'elle soit très tournée vers l'enseignement professionnel. Les mutations des 20 dernières années sont un peu d'une autre nature que ça. Si on va au fond de l'idée des compétences, ça vient d'une ligne de pensée qui remonte à l'après-guerre et à deux Nobel d'économie successifs, Schultz et Gary Becker. Schultz était plutôt de gauche, enfin néo-keynésien à l'époque, et a résolu un problème qu'on appelle le résidu de Solow, qui est un problème très intéressant, qui est la part de la production économique qui n'était pas expliquée ni par le surcroît de travail, ni par le surcroît d'investissement ou de capital. Et l'explication, c'est qu'il y a des facteurs, qu'il a appelé le capital humain, qui permettent d'accroître la productivité, qui sont l'état de santé. Et c'est en suivi une période florissante pour le savoir, d'investissement massif dans la science, dans l'éducation. Et c'est là qu'a été inventée l'idée d'université au sens états-unien, qui est l'endroit où se forme la classe moyenne, c'est-à-dire l'université de masse, on l'appelle, ou l'université démocratisée, mais on peut dire de masse. Dans ce sillage-là, il y a eu une sorte d'histoire sur laquelle on va revenir dans les questions suivantes, de l'idée de compétence et de capital humain, et on peut voir que ces dernières années, c'est pas tout à fait cette conception originaire du capital humain qui est mise en avant dans les politiques publiques.
Bon, mais vous nous donnerez votre point de vue personnel. Je reviens vers vous, Monique Cantos-Sperber. Est-ce que, dans le fond, une question qui se pose aussi, est-ce que ce n'est pas au marché du travail lui-même de former, justement, professionnellement? Est-ce qu'il faut nécessairement qu'il revienne à l'université de saisir cette mission?
Encore une fois, nous devons absolument préciser ce que nous entendons par former professionnellement. J'ai enseigné plusieurs années à Stanford et ce que j'ai observé, c'est qu'au moment des graduations, mois d'avril, les étudiants... les étudiants étaient mis en contact avec tous les employeurs de la Silicon Valley qui se rendaient sur le campus et qui faisaient leur recrutement. Je vous assure que le fait que l'étudiant soit diplômé en grec ancien, en géosciences, en histoire du 19e ou en mathématiques, importait relativement peu. La seule chose qui les intéressait, c'était la qualité de la formation intellectuelle, de la capacité à maîtriser un projet et à le conduire. Et nous avons dans tout le monde anglo-américain, et en particulier aux États-Unis, qui pour l'instant continuent à faire avec surtout les Britanniques, mais bon, ils n'ont que quelques très grandes universités, sont plus nombreuses aux États-Unis, ils continuent à faire la course en tête. Nous avons des systèmes de formation à ce qui est quand même l'excellence professionnelle, parce que regardez les résultats de l'économie américaine, précisément où on ne spécialise pas dans les études, mais où l'on forme. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'on donne aux étudiants les capacités d'adaptation, les qualités intellectuelles fondamentales qui leur permettront de s'adapter très vite, de pouvoir affronter le renouvellement des compétences, qui est une réalité aujourd'hui dans le marché du travail, qui leur donnera les moyens de constamment être en maîtrise sur l'avenir professionnel et l'offre de marché de travail qui se présentera dans les différents moments de leur vie. La formation est là et elle est l'œuvre de l'université, mais ça ne signifie pas l'instruction dans un métier. Alors évidemment, lorsqu'on est scientifique, lorsqu'on est médecin, il faut commencer à faire des sciences et de la médecine très tôt, ça va de soi, mais sans négliger une formation d'un autre type, qui est une formation véritablement des qualités intellectuelles. Et dans les premières années, dans les undergrads aux États-Unis, au moins première et partie de la seconde année, les étudiants sont très libres de ce qu'ils choisissent. Ils peuvent avoir un cursus en mathématiques, mais choisir aussi de faire du chinois ou de l'histoire ancienne, enfin comme ils le souhaitent. On valorise cela parce qu'on considère que toutes les disciplines concourent à former des qualités intellectuelles qui seront ensuite, même sur de, appliquées à de tout autre sujet, extrêmement appréciées dans le monde professionnel. Et je crois que cette perspective à l'égard de l'éducation est une des clés de la réussite de l'économie américaine, avec sa souplesse, sa force d'adaptabilité, sa capacité à anticiper les innovations qui vont arriver. Mais si vous voulez, la question fondamentale de l'université, puisque notre ami a mentionné les frères Humboldt, qui sont vraiment les deux grandes figures, ils ont inventé l'université moderne. Et j'insiste sur le point que cette idée de l'université de Berlin a surgi après la défaite de Tilsit, donc la Prusse s'est retrouvée réduite à la moitié de sa surface. Ce roi militaire a décidé, ce roi soldat, a décidé, justement alerté par les deux frères Humboldt, Wilhelm et Alexander, a décidé de miser sur la formation. C'était ça l'idée. 1812, l'université Humboldt est inaugurée à Berlin. C'est la première université de recherche, c'est-à-dire on considère que enseignement, formation et recherche doivent être couplés, c'est fondamental, et qui considère que la meilleure professionnalisation commence par la formation des qualités intellectuelles. Et Étienne Boutmy, dans la deuxième moitié du 19e siècle, eh bien, dira vraiment la force de l'Allemagne, que ce soit son armée ou son économie, c'est dû à l'université de Berlin.
Émile Boutmy. Bruno Andréotti, justement, quand on constate ce que explique là Monique Cantos-Perber sur la façon peut-être dont certains étudiants américains ont la liberté d'aller vers des cursus beaucoup plus littéraires, beaucoup plus tournés vers les sciences sociales, sans s'inquiéter peut-être de ce qu'attendent de les entreprises. Est-ce qu'en France c'est un problème, j'allais dire, de liberté au sein même des universités, ou bien est-ce que les entreprises, les recruteurs en France ne sont pas capable ou à même de reconnaître l'intérêt d'avoir une formation en grec ancien ou en histoire du 19e siècle, pour reprendre les exemples qui ont été donnés?
Alors, je ne suis pas sûr du tout que ça soit le cas. C'est-à-dire, il y a des lieux communs sur l'employabilité, par exemple, des étudiants en sociologie. Mais la formation en sociologie, il n'y a pas de problème d'employabilité au bout. Donc, il faut se méfier des rumeurs qui courent. L'université, aujourd'hui, fait encore assure des cours de très haut niveau. Dans ce contexte, il faut séparer, je pense, cette idée de pouvoir faire sa vie professionnelle, qui existe, qui est importante, et puis ce que produit dans le réel le fait de passer par l'université pour la société dans son ensemble. En ce moment, quelles sont les choses qui, l'année dernière, semblaient être les métiers d'avenir? Prompter une IA. Cette année, prompter une IA est devenue déjà pratiquement obsolète. Donc on voit cette idée de segmentation des savoirs qu'il y a à l'intérieur des compétences, d'isoler des morceaux de savoir qui seraient valorisables pour en extraire une plus-value par rapport à l'investissement que consentent les familles, que consentent les étudiants eux-mêmes, surtout dans le système états-unien, dans lequel les étudiants s'endettent énormément pour leurs études. Alors, je voudrais venir au point spécifique des États-Unis. En ce moment, les universités états-uniennes sont sous attaque de la coalition entre les paléo-conservateurs, les libertariens et une partie des milieux économistes. Et dans cette attaque, il y a une attaque à la fois contre la démocratie, contre l'idée même de vérité qui est quand même au fondement du travail scientifique et de l'université. Et puis, il y a autre chose qui se joue, c'est que précisément cette idée selon laquelle l'idée des grandes universités privées américaines, selon laquelle les étudiants investissent pour avoir non pas un salaire, mais une sorte de plus-value de cet investissement qu'ils ont consenti dans leurs études, eh bien, provoque d'immenses mécontentements. D'abord parce qu'il y a cette crise de l'endettement étudiant. Ensuite, parce que avec la stagnation économique, les salaires ne sont pas à la hauteur des investissements consentis. Et enfin, parce que ça crée une société qui se distord dans ses composantes et dont on voit aujourd'hui le drame qui constitue pour l'idée même de faire société et l'idée démocratique.
Je reviens un instant, Monique Kantos-Perber, sur ce que vous développiez tous les deux, à savoir qu'on a de plus en plus des universités tournées, orientées vers des compétences qui évoluent d'une manière constante et d'une façon de plus en plus rapide. Est-ce que l'université française a pris ce virage-là et est-ce que vous estimez même qu'il est important que l'université prodigue beaucoup plus des compétences que des savoirs?
Alors, les deux sont absolument nécessaires, mais voyez-vous, un cursus universitaire, aujourd'hui, on considère que ça dure en général 5 ans. Licence, c'est-à-dire le premier cycle, et le master, éventuellement, pour ceux qui le souhaitent, le doctorat. Donc, mais au moins 5 ans. 5 ans, c'est long. Il n'est pas nécessaire de donner à chaque année le même accent ou la même orientation. C'est une stratégie de formation qui doit se voir, quand même, sur un temps de plusieurs années, et dans l'intérêt des étudiants. Parce que quand on observe les taux d'employabilité avec une licence, les taux d'employabilité avec une licence master, c'est-à-dire concrètement la possibilité d'avoir trouvé un CDI au bout de combien de mois, eh bien les chances sont beaucoup plus élevées évidemment avec un master. Et c'est normal, nous sommes dans des sociétés qui sont extrêmement exigeantes aujourd'hui en termes de compétences, et il y a beaucoup de jeunes bien formés, donc c'est tout à fait naturel. Or, 5 ans, ça donne suffisamment de temps pour un travail en profondeur sur la formation intellectuelle de fond et la spécialisation, évidemment. Tout dépend de la manière dont les choses sont combinées. Mais il est évident que l'étudiant qui sort au bout de 5 ans, qu'il ait étudié, l'économie, ou qu'il ait étudié... alors, la médecine, c'est évidemment pas suffisant, mais il a une véritable connaissance de savoir spécialiser. Ça va de soi, on ne peut pas exercer un métier si on n'a pas un minimum de savoir spécialisé, de connaissances techniques. Simplement, il faut avoir acquis ces connaissances techniques d'une façon telle que lorsque les compétences et les savoirs se renouvellent, ce qui arrive quand même très souvent dans notre société, d'ailleurs le taux d'accélération et de renouvellement de ces savoirs ne cesse de s'élever, eh bien il faut également avoir été formé à la possibilité de s'adapter à ce qui va venir. Il n'y a rien de plus dommageable pour un jeune aujourd'hui que d'être enfermé dans une spécialité, dans un savoir-faire, qu'on appelle ça compétence ou savoir, sans lui avoir donné les qualités intellectuelles et les ressources de personnalité également qui lui permettent de s'adapter à autre chose. Vous savez, ça a l'air, évidemment, pour tous ceux qui ont reçu une bonne formation, l'idée de s'adapter à autre chose, ça paraît très facile. Pour ceux qu'on a enfermés très tôt dans une technique, c'est très difficile. C'est un travail considérable d'arriver à se déprendre de ce qu'on a appris et de refaire le chemin à rebours, en quelque sorte, pour avoir les moyens de se renouveler. Et à mon avis, c'est sur ça qu'il faut parier. Les universités aujourd'hui ont un rôle difficile à jouer, puisqu'il faut qu'elles forment des spécialistes, bien évidemment. Mais il faut aussi qu'elle fasse de ces spécialistes des personnes qui sont capables de se repositionner sur d'autres spécialités, et ce n'est possible qu'avec une formation. Alors, qu'on a tort d'appeler généraliste, parce qu'elle n'a rien de général, une formation extrêmement rigoureuse et solide de toutes les capacités qui font qu'on est capable de rebondir, on a les savoir-faire intellectuels suffisamment entraînés pour pouvoir immédiatement assimiler d'autres compétences.
Bruno Andréotti, votre point de vue justement sur cette logique de compétences à l'université?
Alors, il y a deux choses qui se tissent depuis 20 ans, dont on voit l'évolution lente, pas spécialement ces temps-ci. Une première chose qui se tisse, c'est qu'il y a une volonté affirmée depuis un peu plus de 20 ans de nourrir une sphère de la formation et de la recherche privée. C'est-à-dire de mettre tous les moyens de l'État pour l'accélérer. Ça fonctionne d'un certain point de vue. Le supérieur privé est en croissance continue depuis 20 ans. Elle est un peu au-dessus de 10% maintenant. Et il y a une quantité d'argent public qui va dans les formations en alternance, dont je ne suis pas sûr que l'objectif soit tant de bien former que de nourrir cette sphère privée. L'argent qui va à l'alternance, de mémoire, c'est 27, ça dépend un peu comment on compte, mais 27 milliards, c'est-à-dire des sommes qui sont considérables, et l'investissement par étudiant est significativement supérieur à ce qu'on reçoit à l'université pour former un étudiant.
Vous voulez dire qu'elles servent bien plus les entreprises que les étudiants ?
Oui, il y a une volonté de nourrir des grands groupes du privé. Il y a eu un scandale récent avec l'excellent libre qui s'appelle Le Cube, montrant l'absence de contrôle public, les déficiences des formations qui sont prodiguées dans ces grands groupes de formation privée. Et donc, derrière la rhétorique, je suis absolument d'accord sur ce qui a été dit précédemment sur le fait que une formation intellectuelle, une formation au raisonnement, une formation même disciplinaire des modalités de raisonnement et ce que demandent les entreprises dans le réel. Donc il y a quelque chose qui se joue d'ordre politique qui est un peu différent de ça. Par ailleurs, l'université n'est en rien responsable de la situation économique. La situation économique, elle vient des choix économiques globaux. Et à nouveau, on peut retracer depuis 20 ans pourquoi on est dans cette situation de stagnation. Mais en aucun cas, l'adaptation de l'université ne pourrait redresser les choix macroéconomiques faits.
Une réaction, Monique Cantos-Perber, sur la place croissante prise justement par ces grands groupes de formation privée. Est-ce qu'ils sont d'abord, selon vous, l'illustration d'un échec du public ou des politiques publiques de manque de soutien justement à l'égard de l'université ?
Il y a plusieurs raisons qui expliquent la situation actuelle, mais l'histoire vient de très loin, vous savez, parce que lorsque l'université a été recréée, alors bon, je ne sais pas. Évidemment, on n'a jamais eu les frères Humboldt qui revenaient créer une université dans les autres pays européens ou aux États-Unis. Mais cela dit, on peut dire quand même que le modèle de l'université de recherche, tel qu'il a été illustré à Berlin pour la première fois avec l'université Humboldt, s'est mondialisé. D'une certaine manière, toutes les universités, même celles qui existaient comme depuis plusieurs siècles, bon, à commencer par Oxford et Cambridge, mais même chez nous, elles ont pris le tour, elles se sont humboldtisées d'une certaine manière.
D'allier justement enseignement et recherche.
C'est-à-dire avec cette volonté d'allier enseignement et recherche, et aux États-Unis, l'université américaine, alors bien sûr, Harvard a été créée à la fin du XVIIIe siècle, mais les grandes universités américaines, la plupart se sont créées à la fin du XIXe siècle. Elles se sont, pour toutes celles qui avaient de grandes prétentions internationales, ça existait même à la fin du 19e aux États-Unis, elles se sont coulées dans le modèle humboldtien. D'ailleurs, le nombre d'universitaires allemands qui sont arrivés aux États-Unis pour aider à la création de ces universités est colossal. Et même chez nous, Victor Cousin d'abord, et ensuite les responsables de l'éducation supérieure sous la Troisième République, qui ont véritablement refondé l'université à la fin du 19e siècle, ont souhaité aussi faire quelque chose comme une université de recherche. Le problème, c'est que nous avons en France une autre tradition, qui est une tradition quand même napoléonienne, ça a été évoqué, et qui est une tradition, c'est vrai, de spécialité, de compartimentalisation, de départementalisation, quand même assez bureaucratisée, avec un rôle de l'État très très centralisateur. Évidemment, les ambitions qu'on pouvait avoir de faire comme cela se fait aux États-Unis, en Angleterre et parfois en Allemagne, ont été un peu contrariées par cette tendance opposée. Mais enfin, tout de même, nous avons en France aujourd'hui des universités de recherche dont les laboratoires sont mondialement connus. Bien, l'université où enseigne notre collègue, bon, l'école normale supérieure, elle est plus petite taille, un très fort investissement dans la recherche. Pierre et Marie Curie, l'université de Strasbourg, l'université de Grenoble, on a des universités exceptionnelles.
Mais la croissance du privé, alors d'où vient-elle?
Alors, elle vient de quoi? Ben justement, c'est pour ça que je faisais ce long détour, c'est que lorsqu'on a recréé les universités en France, et déjà, oui, on a une tendance quand même, à la française, à concevoir la formation des étudiants un peu comme la formation de futurs professeurs. C'est-à-dire qu'on a laissé complètement de côté ce qui commençait à apparaître comme le besoin d'une formation professionnelle. Et en particulier en deux domaines, qui étaient l'ingénierie, d'une part, et ce qu'on appelait, à partir du début du XXe siècle, les études commerciales. Donc l'État s'est en quelque sorte défaussé de ces deux formations, considérant que ça sortait du périmètre de l'académie. Donc dès la fin du XIXe siècle, début XXe, il y a eu des chambres de commerce dans toute la France, alors souvent avec des orientations culturelles ou religieuses, en particulier dans le nord de la France, qui ont créé leurs propres écoles de formation, écoles supérieures. Et certaines des grandes écoles commerciales viennent de là. Et puis, il y avait, dès le XVIIe siècle, des écoles d'ingénieurs qui avaient été créées, l'école des mines, elle est très ancienne. L'école des ponts et chaussées a été créée aussi au XVIIIe siècle. L'école polytechnique pendant la Convention. Et tout ça, c'était, évidemment, tout ça, c'est resté en dehors de l'université. Alors aujourd'hui, ces écoles, pour la plupart, soit dépendent du public, comme l'école polytechnique, soit continuent à dépendre des chambres de commerce. Elles ont le plus souvent un statut associatif, donc ce qui est quand même non lucratif. Mais évidemment, assez vite, au cours du XXe siècle, des écoles privées, alors cette fois-ci lucratives, sous forme de sociétés commerciales, se sont créées pour précisément prendre en charge cette formation qui avait de plus en plus de succès dans la société, qu'on pourrait à proprement parler de la formation professionnelle, en particulier dans les affaires d'études commerciales et ingénierie, ensuite informatique, et puis maintenant des écoles de théâtre, toutes sortes d'écoles, écoles de mode, etc., qui ont été, où les fonctions de formation ont été assumées par des entités privées, le plus souvent commerciales. Alors, si vous voulez, il est difficile d'apprécier le rôle de l'État dans tout cela. Il est évident que si les institutions publiques se chargeaient de ce type de formation, il n'y aurait pas eu le besoin.
Il y aurait moins de place laissée au privé.
Ben, évidemment. Bon, il y a eu une sorte de partage des tâches, d'une certaine manière. Alors, ça, c'est les purs. Hein. Il est évident que les universités ont bien vu qu'il y avait là des possibilités d'expansion considérables, et certaines d'entre elles ont essayé de développer des espèces de formation interne. Certaines grandes écoles aussi. Mais il reste qu'il y a quand même une forme de clivage qui reste et qui est quand même une difficulté pour notre enseignement. Quand nous allons aux États-Unis, les grandes universités américaines, elles ont tous les départements rassemblés en leur sein, même la formation artistique. L'école de la School of Performing Arts à Stanford ou à Princeton, par exemple, où j'ai également enseigné, sont intégrés dans les universités. Nos écoles de formation artistique, chez nous en France, sont des écoles professionnelles. Alors, elles sont publiques, bien sûr, mais elles sont professionnelles. Elles ne sont pas universitaires.
La ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Elisabeth Borne, qui évoque le sujet majeur de l'orientation.
Vous savez que cette année, on a près d'un million de jeunes qui sont inscrits sur Parcoursup, dont 200 000 en réorientation. Je pense que notre problème aujourd'hui, et ça fait l'objet d'une concertation, c'est la question globale de l'orientation qu'on ne doit pas définir au moment où on remplit ses choix Parcoursup, mais pour lesquels je pense que c'est très important et il faut se préparer très jeune, enfin dès le départ, presque depuis la maternelle, à réfléchir à la façon dont on se projette dans une formation et dans un métier demain.
Dès la maternelle, Bruno Andréotti, on ne va pas revenir sur cette idée quelque peu saugrenue, mais tout de même l'idée de s'orienter au plus tôt, de penser justement à l'orientation dès le plus jeune âge. Est-ce que c'est une idée pertinente justement dans le monde que vous décrivez, de compétences constamment renouvelées et d'attentes fortes du monde professionnel ?
Donc, je pense qu'on a déjà suffisamment de recul, non pas sur Parcoursup en tant que tel, mais sur le bac Blanquer, les effets des spécialités prises très tôt pour pouvoir dire des choses sur ce que fait ce système. Ce système, d'abord, il exerce une pression excessivement forte sur les jeunes gens qui entendent le mot Parcoursup plus d'une fois par jour depuis la quatrième jusqu'à la terminale. C'est oppressant au possible. Mais le fait d'avoir des stratégies qui commencent dès la seconde, c'est-à-dire dans des moments dans lesquels on est quand même ni majeur ni adulte, en train tout juste de se former, de se projeter dans l'avenir, et dans un système opaque, c'est-à-dire ce qui a été annoncé dès le début par M. Blanquer, qui était que n'importe quel choix de spécialité ouvrait à n'importe quelle formation supérieure, eh bien c'est rigoureusement faux. Si on n'a pas fait le choix science et vie et de la terre et qu'on demande une formation de biologie avancée, eh bien simplement on ne peut pas y accéder, c'est factuel. Si on n'a pas choisi les mathématiques qui sont et demeurent sélectionnantes à tort ou à raison dans le système actuel parce qu'on n'est pas prévenu des règles du jeu, eh bien les lycéens se retrouvent bloqués dans leurs aspirations. Donc c'est évidemment beaucoup trop tôt et beaucoup trop enfermant comme système. Et là encore, il y a des raisons qui sont extrascolaires, en particulier l'investissement dans la formation des enseignants, d'avoir des enseignants de mathématiques en quantité suffisante pour former tout le monde. Il y a une proposition alternative assez simple qui serait d'avoir un bac qui, au contraire, n'aurait que 4 ou 5 disciplines pour tout le monde. Et ça aurait un immense avantage dans la construction de la société, dans ce savoir commun, dans l'aspiration démocratique, cet anti-système dans lequel on formerait, jusqu'à la terminale, avec des options peut-être, mais en tout cas, pas cette dynamique d'enfermement dans des spécialités aussitôt.
Et puis je reviens, Monique Kottosperber, sur une idée peut-être toute simple, toute bête, mais pour s'orienter très jeune, il faut quand même connaître un peu le vaste monde, savoir quelles sont les différentes filières, quels sont les différents métiers, quelles sont les différentes opportunités. Comment s'orienter quand on ne connaît pas ce monde-là ?
Ça n'a aucun sens. Enfin, je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. Évidemment, c'est très bien pour les enfants de s'imaginer pompier, coiffeuse, médecin, chirurgien. C'est très bien, ça les fait rêver. Et puis, ça nourrit les ambitions familiales. C'est extraordinaire. Mais enfin, l'orientation, c'est une chose extrêmement sérieuse. Donc, en effet, formation fondamentale, 5 disciplines. Vous savez, dans ses mémoires, Churchill, qui était le cancre d'entre les cancres à l'école, dit « De toute ma scolarité, je n'ai appris qu'une chose ». Savoir écrire l'anglais et savoir le parler. C'était un apprentissage très difficile, mais avec ça, j'ai su tout faire, affronter toutes les situations. Voilà, je pense que, bon, évidemment, mutatis mutandis, c'est quand même une bonne leçon à revenir. Une formation solide qu'on charge au maximum, les exigences de rigueur, les exigences de précision, qu'on apprenne aux enfants ce que c'est que la recherche des savoirs, la vérification des faits. Si on les dote de toutes ces habitudes dont ils sont loin d'être dotés à la fin de leur parcours secondaire, déjà on aurait fait un grand progrès pour l'intelligence collective de notre société. Et ensuite, bien sûr, une spécialité. Je suis, quant à moi, tout à fait opposée aussi à cette réforme du lycée qui a transformé le choix entre des disciplines et le projet de la formation intellectuelle d'un
esprit. Vous parlez de la réforme Blanquer.
Oui, tout à fait, en une sorte de shopping list dans laquelle il faut cocher. On demande à des enfants de faire leur CV, en quelque sorte, pour les études supérieures, alors qu'ils n'ont aucune connaissance, aucune information. Alors, évidemment, tous les enfants issus de milieux défavorisés seront beaucoup plus à l'aise, aidés par le milieu familial pour le faire. Mais pour en venir à l'essentiel, puisque je vois que notre émission est près de se terminer, la possibilité en effet pour l'université de retrouver cette forme de sérieux, d'exigence dans la formation, mais aussi de liberté. Une spécialisation extrêmement exigeante, mais à partir d'une formation générale. Et un rôle très large et très fondamental à l'université. On n'a pas du tout parlé du rôle économique de l'université, mais plus l'université a des résultats de recherche, plus son taux de dépôt de brevet est important, plus le fait qu'elle soit l'origine d'une croissance pour le pays, le taux de croissance d'un pays est strictement en rapport avec la qualité de ses universités. Donc c'est un enjeu, il n'y a pas d'investissement collectif plus rentable qu'investir dans la qualité de la formation et la qualité de la recherche. Et n'oublions pas que l'université, c'est l'école de l'avenir pour les jeunes. Les jeunes qui sont dans l'université, ils rêvent à leur avenir. Il ne faut pas les décevoir. Il faut que l'université leur donne tous les moyens d'avoir véritablement un avenir. Et dernière mission aujourd'hui, l'université a une guerre culturelle, précisément aux États-Unis aussi, défendre la rationalité, défendre la rigueur, défendre l'exigence intellectuelle. C'est là qu'on l'apprend.
Et aujourd'hui, sans doute, plus que jamais. Merci beaucoup à tous les deux. Monique Cantos-Sperber, philosophe, directrice de recherche émérite au CNRS, et Bruno Andréotti, physicien, professeur à l'Université Paris-Cité, chercheur au laboratoire de physique de l'École normale supérieure. Merci à tous les deux d'être venus ce soir dans Question du soir.
Vous écoutez France Culture.
Découvrez 12 créations sonores originales.
Je t'aime.
12 variations de moins de 10 minutes sur le dialogue amoureux, conçu et mixé en son spatialisé par des étudiants en école de son. À écouter au casque pour tendre l'oreille aux créateurs de demain. 11 immersives, 12 variations sur le dialogue amoureux. À découvrir sur franceculture.fr et l'appli Radio France. Un polar brut entre meurtre, devoir et déchirure familiale. À Yaoundé, le commissaire Bilong enquête sur le meurtre d'un officier de police.
Commissaire Bilong.
Dans la rue comme au sein de sa famille, il peine à maintenir l'ordre. Homme de principe et de tradition.
Choisir entre laisser la